Alors, le premier intervenant, vous avez noté qu'il était multitâche, n'est-ce pas? C'est Johan Tourne. Donc, pour faire bref, parce qu'il faut commencer. Oui. Il est essentiellement pour nous, ce qui nous intéresse, comité de pilotage du REPEU, coordinateur des réseaux professionnels des GBU. C'est sa nouvelle fonction. Voilà. Par ailleurs, il anime beaucoup de formations et de publics, etc. Il écrit dans le journal GBU, etc. Et donc, nous lui avons demandé, et en fait, c'est même lui qui a relooké l'intitulé, de parler de l'enseignant chrétien comme élève du Christ. Donc, ça fait écho à quelque chose que j'avais lu quand j'ai eu du mal à trouver cette réunion. Bon, enfin, l'idée, c'est que dans une table de classe, il n'y a pas le professeur qui trône et puis les petits élèves, il y a un maître avec un grand M, c'est d'abord Jésus-Christ. Je parle évidemment du cadre de si l'enseignant est chrétien. Ça, c'est très important, je pense, de se replacer dans cette perspective, donc de l'enseignant d'abord comme élève du Christ avant d'être professeur de petits élèves. Donc je te laisse la parole.
Merci. Bonjour.
Je vous ai prévu une petite projection. La question c'est est-ce que ça va fonctionner ?
Il y a une répétition générale.
N'est-ce pas ? Oui, mais en fait, le vidéo pro s'est éteint depuis. C'est cela. Il arrive. Vous voyez le GBU qui apparaît comme ça ? Ouais, c'est un peu comme, je sais pas, la nuée qui arrive sur.
Est-ce qu'il faut être
Je pense que non, puisque ça devrait arriver petit à petit.
L'enseignant comme élève de Christ, et j'ai rajouté. Et comme nouveau, Belzéboul, ou Belzébul. Quand Margarita m'a parlé de ce titre, j'ai trouvé ça vraiment super. Et je me suis posé la question, après avoir trouvé ce titre super, ce que j'allais bien pouvoir dire et quel texte j'allais bien pouvoir trouver pour parler d'enseignant comme élève de Christ. Et en fait, j'ai tout de suite eu en tête un passage incontournable de la Bible qui parle justement de disciples et d'un maître. Et puisqu'il était incontournable, j'ai pas réussi à le contourner. Et donc, je vais vous le proposer. C'est un passage dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10. Dans Matthieu 10... Jésus envoie les 12 le précéder dans les villes d'Israël. Et il leur donne le pouvoir de faire des miracles, de chasser les démons. Et leur but, c'est d'aller dans les villes et dans des maisons pour leur annoncer l'évangile. Si on ne veut pas de l'évangile, ils partent. Et si on les accepte, ils restent. Et après, on peut imaginer que Jésus arrive et donne aussi un enseignement. Et donc, il leur donne une sorte de mode opératoire. Et en plein milieu de ce passage, de ce discours de Jésus, il va un peu élargir son discours. Et là, on sent que c'est plus pour les 12 qui vont dans les villes d'Israël. On sent que c'est pour après. Et nous sommes après. Donc, on va lire à partir du verset 16. « Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc avisés. » comme des serpents, comme les serpents, et purs comme les colombes. Gardez-vous des gens, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous fouetteront dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. Ce sera un témoignage pour eux, comme pour les non-juifs. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous direz vous sera donné à ce moment même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. Amen. Je vous le dis, en effet, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son maître, et à l'esclave de devenir comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Belzéboul, à combien plus forte raison agiront-ils ainsi envers les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux moineaux pour un as. Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre, indépendamment de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque, donc, se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi, en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Un passage qui réveille, si vous étiez endormi. Un passage qui va vous secouer, je l'espère. Il y a plusieurs choses qu'on peut relever dans ce texte. La première chose qui saute aux yeux, c'est que le maître donne un enseignement extrêmement réaliste à ses élèves, à ses disciples. Et il leur dit quelque chose qui fait jamais trop plaisir à entendre. Être disciple de Jésus, c'est être martyr. Être martyr, ça veut dire être témoin de Jésus au travers de brimades, au travers de souffrances. Et ça veut dire que être disciple de Jésus, ça se voit. Puisque justement, pour être persécuté, il faut déjà que les personnes sachent qui on est. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que Jésus est un enseignant honnête. Il n'envoie pas ses disciples comme ça en disant « tout va bien se passer ». Je vous ai bien formé, vous inquiétez pas, vous allez être des stars. Et ça va super bien se passer. Non, il leur dit, je vous ai bien formé, et il leur a donné les moyens de faire les choses, hein, parce que je vous rappelle qu'il envoie 12 personnes, et il leur donne les moyens de chasser les démons et de faire des miracles. Mais il leur dit, malgré tout ça, ça va mal se passer. Mal se passer pour vous maintenant. Et là, il parle, je le répète, il parle des chrétiens après eux, ça va mal se passer en général pour les chrétiens. Jésus est un bon formateur, n'est-ce pas? Bonne question. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que les disciples sont appelés à être dans les pas, à se mettre dans les pas de leur maître. Les disciples, à l'époque, suivaient leur maître. Donc, ils étaient déjà dans ses pas. Mais là, il est en train de dire aux chrétiens, même quand je ne serai plus là, vous continuerez encore de marcher dans mes pas. Jésus est venu sur terre au milieu des loups. Les disciples sont envoyés comme des brebis au milieu des loups. Et quand vous envoyez une brebis au milieu des loups, ça finit assez souvent par un carnage. Tout ce que les disciples font, c'est en fonction de Jésus. Les Juifs ont appelé Jésus Belzéboul, en tout cas, une sorte de chef des démons, les disciples seront appelés pareil. Voilà, malgré la bonne nouvelle qu'ils annoncent, ils seront considérés comme des démons par leurs contemporains. Jésus a dit des vérités qui lui ont valu certains problèmes. Il a surtout dit, en fait, à tous ceux qui étaient autour de lui que leur religion ne pouvait pas les sauver, que la stricte observance de la loi de Moïse, le légalisme ne pouvait pas sauver, et que l'homme avait un problème bien plus profond que ce que les pharisiens pouvaient dire. Ça lui a vraiment attiré des problèmes. Les disciples vont connaître la même chose. Il va être jugé Jésus, puis mis à mort, les disciples vont être jugés et mis à mort. Et à la fin du passage, les versets 32 et 33, il y a une petite différence. Jésus inverse un peu la chose. Au début, il est en train de dire tout ce que vous devez faire, c'est en fonction de moi. Et à la fin du passage, il leur dit, moi ce que je vais faire, c'est en fonction de vous. Il inverse les choses. C'est-à-dire que si vous me reconnaissez devant les hommes, moi je vous reconnaîtrai devant mon Père. Par contre, si vous ne me reconnaissez pas devant les hommes, moi je ne vous reconnaîtrai pas devant mon Père. Il y a une sorte d'inversion qui est intéressante. Mais en tout cas, le but de cet enseignement est dit par Jésus, l'élève n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont persécuté le maître, ils persécuteront les élèves. S'ils ont persécuté le maître de la maison, ils persécuteront les gens de la maison. On ne peut pas faire les choses de manière indépendante du maître. Mais heureusement, il n'y a pas que du négatif dans le discours de Jésus. Il les assure aussi qu'ils ne seront pas seuls dans leur métier de disciple, dans leur métier d'élève. Il y aura un suivi pédagogique. Et donc, quand ils appelleront, on leur répondra. C'est pas comme dans l'éducation nationale. Il leur donne un cadre et un équipement. Il leur dit, vous serez arrêtés, certes, mais cela servira de témoignage. Donc il y a un sens, hein, vous n'allez pas juste servir de chair à canon et puis il n'y aura pas de sens à ce qui va vous arriver. Non, le tribunal vous servira de tribune. Le tribunal va vous permettre de prêcher finalement, de témoigner. C'est un peu d'ailleurs le sens, hein, ce qu'on vous a chuchoté à l'oreille, bah, proclamez-le. Au bout d'un moment, c'est, on sait que vous êtes chrétien, ça vous attire des problèmes, bon bah vous n'avez plus rien à perdre, maintenant allez-y, quoi. C'est plus la peine de vous cacher, hein. Vous pouvez assumer. Donc ça servira de témoignage. Le Saint-Esprit vous dira quoi dire quand vous serez devant les tribunaux. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Et alors, moi je comprends cette parole, le Saint-Esprit vous dira quoi dire, moins comme un côté voilà, mettez-vous en transe et Dieu va parler au travers de vous, comme ça de manière surnaturelle. Je pense aussi que le Saint-Esprit va leur donner, va leur rafraîchir la mémoire pour se rappeler des paroles de Jésus, de ce qu'a fait Jésus, de l'imitation du Maître. Le Saint-Esprit va surtout leur permettre cela. Ils vont se rappeler de ce que Jésus avait dit et ils vont faire comme Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui va leur servir. On le verra tout à l'heure. Troisième encouragement, vous serez détestés de tous, et spécialement des membres de votre famille, si vous avez bien retenu, mais votre persévérance vous sauvera. Donc il y a le côté, vous allez souffrir pendant quelques temps, mais au bout d'un temps, votre persévérance vous sauvera et sauvera votre âme. Et votre nouveau corps, mais ça c'est encore plus tard. Quatrième encouragement, le Fils de l'homme viendra. Vous allez fuir la persécution, mais vous n'aurez pas fini de faire le tour des villes d'Israël, que le Fils de l'homme viendra. Il y aura une fin à cela. Il y aura une fin à ces persécutions. Et le Fils de l'homme qui vient, ça veut dire que c'est le grand message de l'Apocalypse. À la fin, on gagne. À la fin, Jésus gagne, et les disciples de Jésus avec lui. Donc c'est quand même une bonne nouvelle à la fin. Même si ça passe par des souffrances avant cela. Cinquième point, votre âme vivra. La vérité que vous allez dire va vous tuer, mais uniquement, va tuer uniquement votre corps, pas votre âme. Et voilà, hein, c'est la parole que Jésus dit à celui qui est à sa droite sur la croix de droite. Tout de suite, bientôt, très bientôt, tu seras avec moi, dans le royaume de mon Père. Toute personne qui meurt en Jésus est auprès du Père, auprès de Jésus, et elle connaît le repos. C'est ce que dit encore l'Apocalypse. Elle se repose de toutes ses œuvres. dernier point. La vérité que vous allez dire va vous tuer, mais votre père est aux commandes. Votre père contrôle l'histoire. Il n'y a pas un seul cheveu de votre tête qui tombe sans que ce soit sous l'autorisation, avec l'autorisation de votre père qui est dans les cieux. Et donc, tout cela donne un sens à la souffrance qui est décrite avant cela. Il y a un sens, parce que c'est Dieu qui est aux commandes. Et c'est pour quelque chose, la souffrance, et ça va vers quelque chose, ça va vers une délivrance. Donc les disciples ne sont pas délaissés comme un bon maître. Le Dieu trinitaire accompagne ses élèves, parce que dans notre texte, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire est à la manœuvre, et il accompagne les élèves. Et en fait, on pourrait dire que le témoignage sur terre, c'est comme une sorte d'exercice dirigé, un test pour savoir si on est digne de rentrer ou d'aller en classe supérieure. Mais il y a aussi des impératifs dans ce texte, et là encore, ça fait partie du cadre de la mission. Jésus fixe des ordres de mission. Il les a fixés avant notre texte, avec les exemples « si une maison vous accueille, vous restez dedans et ce sera super, et la paix sera sur la maison. Si elle ne vous accueille pas, vous secouez la poussière de vos pieds et vous partez. » Ça, c'était le truc spécifique pour les 12. Ici, de manière plus générale, il y a 10 impératifs. Il y a 4 impératifs où Jésus dit « ne craignez pas ». Ne craignez pas. Jésus dit à ses élèves de ne pas avoir peur. Et on comprend pourquoi il dit ça, pour quelle raison il dit ça. Forcément, quand on risque sa vie, on a toutes les raisons d'avoir peur. Et il dit « ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas ». La deuxième chose, et là il y a 3 impératifs qui vont dans ce sens-là, « soyez avisés ». Jésus dit de bien réagir face à un environnement hostile. Être prudent comme des serpents. Se méfier des gens, fuir quand ça commence un petit peu à sentir la grosse persécution. Il leur dit ça va mal se passer, mais il ne leur dit pas courez vers le martyr, mourir c'est génial, allez-y, dites à peu près n'importe quoi dans n'importe quelle occasion et soyez contents quand on vous transperce. C'est pas du tout ça le but de Jésus. Il ne promet pas non plus les 70 vierges. Il dit aux chrétiens, dites les choses, ça va vous attirer des problèmes, mais réfléchissez quand même. Réfléchissez et soyez prudents. Soyez prudents. 3 fois, il dit ça. 2 fois, il dit de parler. Il dit de parler. Et de parler publiquement, de ne pas laisser cacher les choses. Parler, alors que ça comporte, bien sûr, un gros risque de parler de Jésus. Et enfin, une fois, il dit « craignez ». Après avoir dit « ne craignez pas ceux qui peuvent tuer uniquement l'âme et pas, uniquement le corps et pas l'âme », pardon, « craignez celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne ». La crainte de Dieu. Une sorte de pédagogie par la peur, qui est assez intéressante, qui fait assez Troisième République, n'est-ce pas, la peur du maître d'école, qui est un moteur pour obéir et pour faire ses devoirs. Il y a un peu ça, quand même. Voilà, on a là Jésus qui commence aussi à dire, au bout d'un moment, il faut choisir de qui vous voulez avoir peur. Voilà. Est-ce que c'est de vos persécuteurs, ou est-ce que c'est du Père? Ça, c'est aussi un moteur, qui peut être assez intéressant. Donc voilà, ces 10 impératifs qui peuvent aussi donner un cadre à la mission des disciples. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut se poser la question, comment est-ce que ça a été appliqué? Comment est-ce qu'ils s'en sont sortis, ces disciples, une fois que Jésus il est parti? Quand ils ont été livrés à eux-mêmes. Enfin, pas forcément livrés à eux-mêmes, parce que le Saint-Esprit est vraiment descendu sur eux. Et donc, c'est super, Jésus avait dit vrai, le Saint-Esprit les a aidés à se remémorer ce que Jésus a dit, à imiter ce que Jésus a fait. La première chose, C'est que les chrétiens ont eu, très vite, dans les actes, de gros problèmes. Tant au niveau externe, persécution, qu'au niveau interne, faux chrétiens, dissensions, fausses doctrines. Ce que un merveilleux cantique a dit, hein, crainte au dehors, lutte au dedans. Agneau de Dieu, je viens, tout ça. Crainte au dehors, lutte au dedans. On a vu que Jésus, il a dit que ce serait difficile, et ça a été difficile. Voilà. Dès le début des actes, les disciples sont persécutés. Et très très vite, aussi au début des actes, à l'intérieur de l'Église, alors qu'en fait, tout a l'air d'être tout à fait rose, tout le monde partage et c'est merveilleux, d'un seul coup, il y en a qui commencent à faire n'importe quoi, et bam, ils sont foudroyés. Ce qui casse un petit peu l'ambiance. Et donc on voit que Jésus, ce qu'il a promis, en fait, se fait. Ça se passe mal. Au niveau externe et au niveau interne, je le répète, même entre chrétiens, en fait, il y a des problèmes là-dessus. Ce qui pourrait éclairer notre propos par rapport à rester dans le public ou aller ailleurs, comme si, en fait, il y avait un monde, l'enfer, et le monde, le paradis, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, on sait très bien aussi que entre l'Église, où normalement on est entre chrétiens et ça devrait être le paradis sur Terre, et l'extérieur avec des non-chrétiens où ça devrait être l'enfer, on sait très bien que c'est un petit peu plus nuancé. Et que parfois même on peut se sentir mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. La deuxième chose qu'on voit dans le reste du Nouveau Testament, c'est que les chrétiens parlent et agissent vraiment bien. Au début des Actes des Apôtres, on voit deux marins pêcheurs de base, qui s'appellent Pierre et Jean, tenir tête à des docteurs de la loi, sur leur terrain, sur le terrain théologique. Et on les voit, qui expliquent à ces 70 docteurs, qui sont des stars dans leur domaine, que le Jésus qu'ils ont crucifié est en fait le Seigneur des Seigneurs. Et au bout d'un moment, en fait, les 70 se disent, mais c'est qui ces gars-là? C'est pas des pêcheurs, enfin, des pêcheurs, des marins pêcheurs. Ils parlent vraiment bien, hein, pour des marins pêcheurs. Enfin, ils ont une bonne formation, ils ont eu 3 ans de faculté de théologie avec Jésus. Mais n'empêche, c'est surprenant. Et on voit qu'en fait, le Saint-Esprit, déjà, alors, les aiguille pour justement parler de la bonne manière et dire les bonnes choses dans les bonnes circonstances pour proclamer le nom de Jésus à des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et ça va se répéter dans tous les Actes des Apôtres. Mais non seulement il y a ça, mais toujours avec Pierre et Jean, on leur dit arrêtez de parler au nom de Jésus, ils sortent du tribunal, ils recommencent de parler de Jésus alors qu'en fait on vient de leur interdire, on les reprend, on les fait battre à coups de verge, et qu'est-ce qu'on dit? Ils se réjouissent. Alors qu'on est en train de leur taper dessus, hein, ce qui est normalement moyennement agréable, ils se réjouissent d'avoir l'honneur d'être persécutés pour le nom de Jésus. Si ça, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Ça peut être que l'œuvre d'une sorte de masochisme un peu bizarre, mais on peut penser qu'ils sont pas trop masochistes. Donc on peut penser quand même que c'est le Saint-Esprit. Ils n'ont pas peur, et ils se réjouissent d'être persécutés à cause du nom de Jésus. Ce que Jésus a promis, on voit que ça se passe dans les Actes des Apôtres. Il y a tout plein d'apôtres qui sont mis en prison. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en prison? Ils chantent. Ils chantent et ça produit des effets. Parce que du coup, il y a des miracles qui se passent. Non seulement il y a ça, mais on voit aussi que le message de Jésus que nous avons lu aujourd'hui est très bien transmis et retransmis. On voit que les apôtres prêchent fidèlement le message, mais on voit aussi qu'ils forment des anciens, et ces anciens transmettent aussi fidèlement ce message, et ils sont chargés de le transmettre à d'autres personnes qui sont chargées de le transmettre à d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai mis 2 Timothée 2:2, qui est le verset fétiche du programme Relais au GBU, où on forme des stagiaires pour justement transmettre ce savoir-faire et justement transmettre ce ministère de la parole. On voit que ça marche aussi, ce genre de choses. Ce que le maître transmet, ça s'est transmis à d'autres personnes qui n'ont du coup pas connu, pas vu Jésus. L'application des paroles que nous avons lues tout à l'heure, on le voit aussi avec les chrétiens des quatre premiers siècles. Et c'est là aussi par rapport à cette transmission où on peut voir dans les textes des pères de l'Église, on peut voir en fait finalement comment ça s'est passé. Est-ce que Jésus, en fait, il a dit un truc à ses disciples et après le message s'est franchement dilué et ça s'est passé autrement? Ou est-ce que on a pu vérifier que les choses se sont à peu près passées comme il l'a dit? Et on voit avec certains écrits des pères de l'Église et avec l'histoire de l'Église que pendant les quatre premiers siècles où le christianisme n'était pas trop tendance, après il est devenu un peu plus tendance, mais où le christianisme n'était pas trop tendance, qu'il y avait la persécution et que la persécution a produit des effets formidables. Donc les gens mouraient, mais il y avait un témoignage qui était donné qui du coup produisait des conversions. Ce qui était totalement bizarre, parce que pour les administrateurs de l'Empire, il y avait un côté « Bonjour, mon cher empereur, comme tu me l'as dit, en fait, on a arrêté plein de chrétiens, on les a torturés comme ça se faisait, on leur a dit « Il faut absolument que tu te convertisses, offres un culte à l'empereur, et que tu abjures, et tu auras la vie sauve, et ta famille aussi. » Mais en fait, comme tout vrai chrétien, ils ne le font pas. Qu'est-ce que je fais ? Et en plus, plus on en arrête, plus il y en a. Ce qui était quand même un peu bizarre pour les administrateurs de l'Empire. Et on voit que la persécution a produit le contraire de son but. Et je vais citer Tertullien, un texte assez connu, où Tertullien en fait s'adresse aux persécuteurs, et il leur dit « Courage, bon gouverneur !» qui devenait beaucoup meilleur aux yeux du peuple si vous lui immolez des chrétiens. Tourmentez-nous, torturez-nous, condamnez-nous, broyez-nous. C'est une preuve de notre innocence et de votre iniquité. Et voilà pourquoi Dieu supporte que nous supportions ces tribulations. Mais elles ne servent à rien. Vos cruautés les plus raffinées, elles sont plutôt un attrait pour notre secte. Nous devenons plus nombreux chaque fois que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. Le sang des chrétiens est une semence. Ce que Jésus a dit, ça s'est fait. D'où cette question. Enseignant ou apôtre ? Parce que vous pourriez me dire, bon, t'es gentil, mais notre métier, c'est pas d'annoncer l'Évangile, c'est d'enseigner, et d'enseigner autre chose que l'Évangile. Sauf ceux qui sont en Alsace et qui peuvent quand même un peu parler de la Bible, c'est aussi possible. Et c'est vrai que mon but en tout cas, n'est pas de vous encourager à prêcher l'Évangile dans votre établissement. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, je vous le rappelle. Jésus a bien dit que son message vous attirerait des problèmes, mais il vous dit aussi d'être prudent et avisé. Donc je vous encourage à être prudent et avisé. Mais du coup, on peut se poser la question. Le titre de la journée, qui rejoint en fait le titre de la journée. Moi, la question que je pose, c'est l'enseignant chrétien a-t-il encore sa place dans le monde actuel ? Parce qu'au final, on se pose la question du système scolaire actuel. Mais en fait, la question que pose Jésus, c'est est-ce que l'élève de Jésus est adapté, a encore sa place dans le monde actuel ? Et la réponse est non et oui. Non, il n'a plus sa place dans le monde actuel, car ce monde n'est plus son monde. Il est passé dans un autre monde, celui où Jésus et le Seigneur. Il est dans un autre royaume. Et donc non. Mais oui, parce qu'il vit encore dans ce monde. Encore sur les terres du diable. Et il doit raconter une histoire. une nouvelle, une bonne nouvelle, qui est à contre-courant de ce qui est servi partout ailleurs. Et donc il y a un rôle de témoignage. Et bref, du coup, c'est faire comme Jésus, pointer du doigt l'échec d'un système qui ne fonctionne pas. Du vieux monde, où justement le prince de ce monde est le roi, dans lequel le prince de ce monde est le roi. Et justement proposer de faire autrement, dire qu'il y a une autre voie possible, une autre manière de faire possible qui est libératrice, qui amène à quelque chose qui est absolument merveilleux, que personne ne s'imagine, parce que justement c'est quelque chose qu'on peut acquérir grâce à vraiment à une révélation, mais quand on expérimente, on sait que c'est absolument merveilleux et qu'il n'y a pas plus merveilleux que d'appartenir au Seigneur Jésus. En tant qu'enseignant chrétien, on peut avoir un autre rapport aux élèves que les autres enseignants. En tant qu'enseignant chrétien, on peut avoir un autre rapport aux difficultés du travail que les autres enseignants. Un autre rapport avec ses collègues. On peut témoigner, quoi. On peut même parler de l'évangile à ses collègues. Parce qu'il y a, normalement, ils sont à peu près tous majeurs. En tout cas, être chrétien, c'est dénoter. Dénoter dans la manière d'être, dans la manière de penser, dans la manière de faire. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pour toutes les corporations, pour tous les réseaux professionnels. Et je dirais que dans des services publics, qui ne mettent plus la personne au centre. C'est ce que disent beaucoup de fonctionnaires qui travaillent dans des services publics, que ce soit au niveau santé, mais aussi au niveau éducation. On dit souvent, j'entends souvent, qu'on ne met plus la personne au centre, on met plutôt la rentabilité. On va dans des problématiques, on est obligé de courir après des problématiques qui ne sont plus des problématiques de base, du temps de la Troisième République, l'âge d'or des hussards noirs de la République, où les élèves filaient droit, où ils écoutaient, où ils faisaient leurs devoirs, et où en plus quand le maître leur mettait une trempe à la maison, ils avaient une deuxième trempe. Cet âge d'or, que personne ici n'a connu, mais en tout cas qui est encore assez légendaire. Je disais donc, dans des services publics qui ne mettent plus forcément la personne au centre, et où on voit qu'en fait il y a un vrai dysfonctionnement, avec des enfants qui n'ont plus beaucoup de repères stables, les chrétiens peuvent largement tirer leur épingle du jeu. Et j'aurais tendance à pousser le bouchon encore plus loin, j'aurais tendance à me réjouir de la déchristianisation de notre société. J'aurais tendance à me réjouir de la crise des valeurs dans notre société. Pas du tout. Parce que c'est mieux pour l'état général de la société, mais parce que on brille plus aisément dans les ténèbres. Et que avec une déchristianisation de la société, eh bien, la société ne peut plus surfer sur la vague de la morale, de la bonne morale chrétienne, du bon cadre. Elle n'a plus ces moyens-là. Et donc, en fait, elle est ramenée à une sorte, un peu comme pendant l'Église primitive, il y a une sorte de néo-paganisme qui revient à la charge. En fait, on fait exploser tous les verrous, on revient dans un état, une sorte d'état sauvage. Et là, d'un seul coup, les chrétiens ont une parole qui peut vraiment avoir un vrai écho. Parce que du coup, il y a des choses à dire, quoi. Et on a vraiment un vrai deuxième modèle qui ressemble moins au premier modèle que toujours pendant la Troisième République, on va y rester, où en fait, bien sûr, c'est le triomphe de la laïcité, mais quand même, on a quand même encore le bon cadre judéo-chrétien. Quand il saute et quand tout le monde est totalement désœuvré, d'un seul coup, les chrétiens, là, entrent en jeu et peuvent vraiment apporter leur voix. Dernière question. Et c'est la question qu'il faut du coup se poser, je pense. Enseignant, qui est votre maître? C'est la question que nous pose Jésus. Puisque l'intitulé, c'était « L'enseignant chrétien comme élève du Christ », dans notre passage, Jésus pose cette question, en fait. Qui est votre maître. Quelle est la première mission d'un enseignant chrétien ? Transmettre des connaissances ? Je pense que ça, c'est la deuxième mission. Je pourrais faire ça pour toutes les corporations, hein, mais ici, donc. La première mission de l'enseignant chrétien, c'est de témoigner de son appartenance au Seigneur Jésus. Si vous pensez que c'est pas possible, si vous pensez que c'est trop difficile, je l'entends et je le comprends. Et en fait, Jésus le comprend aussi parce qu'en fait, il sait très très bien ce que c'est de témoigner en milieu hostile et de souffrir en milieu hostile. On a l'expert qui parle. Mais ce passage nous pose, enfin, vous pose, une question très simple. Et c'est cette question-là. Qui est votre maître ? Au Moyen-Âge, on disait « votre seigneur lige ». Dans la féodalité, on avait plusieurs seigneurs. Mais il y avait le seigneur des seigneurs. Il y avait le seigneur auquel il fallait obéir, qui précédait finalement tous les autres seigneurs. Et de qui êtes-vous l'élève au final ? De qui êtes-vous l'élève ? Donc c'est cette question que j'aimerais laisser sur votre cœur et qui pourrait peut-être résonner pendant le reste de cette journée. Je vous remercie de votre attention. Merci.